Bonsoir. Cycle électoral 2014-2016 en RDC. Le président du Centre africain pour un leadership transformationnel propose un schéma sous forme de chronogramme. Le professeur Stéphane Zita suggère que de novembre 2014 à août 2015 soit organisé le recensement de la population par la CENI et l'enrôlement des électeurs pour la tenue des élections générales en 2016. Comment analyser cette proposition? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Je reçois dans ce studio professeur Stéphane Zita Dinzita, recteur de l'Université chrétienne internationale. Il est aussi président du Centre africain pour un leadership transformationnel. C'est l'auteur de la proposition sur le calendrier électoral. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT. Il est aussi coordonnateur de l'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA. Bonsoir monsieur Bonceau.
Bonsoir monsieur.
Professeur Bob Kabamba. Il est professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Kabamba, bonsoir. On me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Entre-temps, à tous, merci de nous recevoir chez vous. Le président du Centre africain pour un leadership transformationnel propose une feuille de route pour le cycle électoral 2014-2016 en RDC. Se confiant à la presse samedi dernier à Kinshasa, le professeur Stéphane Zita Dinzita suggère son schéma en quatre étapes. Berry Franklin Luchaka, vous avez lu ce chronogramme, quelles sont ces étapes?
La première étape qui dure 9 mois et demi à l'Inrung va du 1er novembre 2014 au 15 août 2015 avec un agenda qui se présente de la manière suivante. En deux semaines, il sera question de procéder à la préparation de la logistique, analyse des besoins et définition des objectifs à atteindre par la CENI d'une part et d'autre part, le recensement de la population par le gouvernement en disant 3 mois, l'enrôlement des électeurs par la CENI pendant 4 mois et passer à la commande des matériels radiocom dans les chefs-lieux des provinces, des localités ou secteurs. Deux mois suffisent pour la commande partout. La deuxième étape qui ira du 16 août 2015 au 28 février 2016 se concentrera sur l'élaboration de la cartographie réelle par la CENI en un mois et demi, la détermination des règles du jeu en l'espace de deux semaines, l'élaboration du calendrier électoral par la CENI en deux mois, la détermination par la CENI du budget pour les élections générales à soumettre à l'Assemblée générale en un mois et l'élaboration par la CENI du document d'ordre intérieur pour les élections générales en un mois. C'est notamment le nombre des sièges, les modalités de vote des institutions du pays, entre autres le président de la République, les députés nationaux et provinciaux, les gouverneurs et sénateurs, ainsi que les conseillers provinciaux. En ce qui est de la troisième étape qui ira du 1er mars au 30 mai 2015, la CENI est censée à l'un rencontrer les partis politiques pour les séances et travaux afin d'examiner minutieusement les différentes matières de la CENI en vue d'élaborer un document final par consensus. Une activité qui est censée prendre un mois et demi. Enfin, la dernière étape du planning des élections telle que proposée par le Centre africain pour un leadership transformationnel partira du 1er juin au 30 septembre 2015 et se focalisera sur l'implantation des matériels radiocom dans les sites des élections par la CENI en un mois et demi et la formation des membres des centres des bureaux par la CENI en ayant deux mois et demi.
Merci Berry Franklin Luchaka, professeur Stéphane Nzita Dinzita. Pourquoi proposer un calendrier électoral maintenant, en ce moment?
Allez, vous savez, quand vous lisez la loi sur la CENI, vous voyez les définitions des motifs, extraits des motifs, on dit que les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d'une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées après audition du rapport de commission électorale et nationale indépendante par l'Assemblée nationale, d'autre part, portent les législateurs à revoir les cadres institutionnel. Et au cinquième point, il va dire l'institution du consensus comme principal mode de prise de décision. Il y a un problème, il faut qu'on les confronte, qu'on soit honnête. Aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux, celui que nous avons polarisé une fois de plus la classe politique et presque même la population. Tout récemment, on commençait à avoir des chrétiens chrétiens de l'opposition et les chrétiens de la majorité, eh bien, nous allons très vite et très loin. Donc, nous disons ceci, les élections posent problème et le président de la République a raison de dire que le Congo est debout. Mais comme le Congo est debout, et nous nous rappelons notre hymne national, le debout congolais, nous devons être unis. Unis par quoi pour le moment? Nos pères étaient unis pour l'indépendance, mais nous sommes unis pour l'émergence. L'émergence ne fait pas de turbulence. Si nous allons avoir un pays qui est turbulent chaque fois qu'il y a élection, eh bien, ça va décourager les électeurs. Aujourd'hui, moi, en tant que fils du pays, moi, en tant que Congolais, et comment est-ce qu'on découvre un fils du propriétaire d'une maison et un locataire quand la maison brûle? Mais le fils du propriétaire va chercher même un petit bassin pour essayer d'éteindre le feu. Le locataire va prendre sa valise et s'enfuir. Donc, le moment est venu pour que le Congo comprenne que l'année 2014, il y a tous les enjeux et on ne doit pas perdre de vie que nous pouvons et nous devons et nous allons partir aux élections apaisées pour nous asseoir notre jeune démocratie.
Alors, professeur, qu'est-ce que concrètement vous reprochez au calendrier publié par la CENI?
Bon, d'abord, c'est toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Hein? Donc, je ne pense pas que moi j'ai le monopole de mettre, de donner les cartes rouges, mais je pense que...
Ou même de la vérité.
Il y a quand même des problèmes. Le monsieur Mlavi Malomalou a réussi de nous donner un calendrier qui est partiel. Ça, ce n'est pas un secret. Et il est partiel, mais il n'a pas tenu compte de certains problèmes que nous avions réellement. N'oubliez pas que nous sommes le pays, parmi les rares au monde, qui avait fait appel à la CPI pour venir voir nos élections 2011. N'oubliez pas qu'il y a eu des problèmes en 2011. N'oubliez pas qu'il y a eu des problèmes en 2016. N'oubliez pas que nous avons contesté les listes des Intas. N'oubliez pas que nous avons eu, à la dernière minute, même à Kinshasa, il n'y a que 400 quartiers. Il y a eu des problèmes de savoir où sont les bureaux de vote. Et moi, je venais, je disais que c'était mathématiquement impossible de voter l'élection à temps. Mais on ne nous a pas écouté. Donc, nous pensons que M. Labbé Malabar et la CENI n'ont pas tenu compte à ce qui a même donné la loi qui les régit. Vous voyez qu'on dit les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, c'est ça qui est dans la loi électorale. Mais nous ne tenons pas compte de ça. Comment nous pensons que les cartes, les listes électorales qui n'étaient pas correctes en 2011 deviennent tout d'un coup correctes maintenant? Comment nous pensons que tous les problèmes qu'on avait, on n'avait jamais la chance de voir, et vous savez, les problèmes qu'on avait avec les serveurs, et l'audit, tout ça. Donc, nous disons ceci, nous ne voulons pas voir qu'il y a deux camps au Congo, les camps des mauvais et les camps des bons, je n'y crois pas, et les camps des diables, les camps des saints, non, il n'y en a pas, mais je pense que nous, en tant que Congolais tous, nous devons avoir un sens d'humilité, et disons que, mais aujourd'hui, le calendrier Malamalou pose problème, et comment les confronter?
Alors, professeur, venons-en maintenant à votre calendrier, en quoi il est réaliste? Présentez-les brièvement, je vous en prie.
Voilà comme il est réaliste. D'abord, vous savez que si quelqu'un vous dit qu'il est impossible de connaître la population congolaise, la personne ne connaît pas le Congo. Parce que le Congo est un pays où nous avons deux examens d'État. À l'école primaire, nous avons le TENAFEP, où nous avons tous les enfants du Congo sont recensés et font les examens. Nous avons l'examen d'État pour le secondaire, où tous les enfants du Congo dans tous les coins font des examens. Et nous avons les vaccinations au Congo, où toutes les maisons, porte à porte, on peut voir ce qui est coût. Donc, le problème ici, ce n'est pas question d'abord de l'immensité des pays, ce qui est vrai d'ailleurs, le pays est immense, mais ce n'est pas les moyens ou l'intelligence qui manque, parce qu'on l'a déjà fait. Donc d'abord, arriver à avoir aujourd'hui proposé un calendrier électoral sans avoir eu à compter la population, parce que les élections c'est l'arithmétique simple, savoir il y a combien de gens qui vont voter, il y a combien qui ne sont pas venus voter, il y a combien qui ont voté réellement, et savoir qui a eu quel nombre, et puis on fait l'arithmétique simple. Mais le fait que maintenant nous avons des problèmes avec les listes électorales de 2011, donc c'est irréaliste de croire qu'on peut maintenant oublier par un revers de la main, on oublie ce qui était là-bas. Nous devons ne pas oublier. Deuxième chose, nous ne pouvons pas avoir ces élections sans avoir fait un recensement de la population. Mais ça ne prendra pas 10 ans, non. Ça peut prendre le temps que nous proposons parce que chaque quartier, je dis simultanément, chaque quartier au Congo est gouverné et il y a un chef de quartier. Tout le monde connaît qui est qui. Chaque village est membre d'un groupement. On connaît qui est le chef du groupement. Donc, là encore, l'infrastructure de notre pays nous donne, par exemple, nous savons que nous avons 5230 groupements, 2259 chefferies, nous avons 478 secteurs, ainsi de suite. Donc, nous connaissons qui est où, et ne peut pas penser à le faire, c'est un peu de mauvaise foi. Donc, je pense que nous disons, avec ces deux éléments d'abord, il y a quand même, je pensais que faire autrement serait un peu très hasardeux.
Et donc, le recensement et la mise à jour du fichier électoral sont... figure parmi les deux principales propositions de votre chronogramme.
Tout à fait, ce sont les deux premiers problèmes que les Congolais posent. Et ceux qui veulent utiliser l'un ou l'autre disent qu'écoutez, on doit faire un recensement. J'ai dit oui, nous ferons un recensement, mais un recensement administratif pour savoir qui est où. Et voilà ce que nous proposons.
Voilà, Jérôme Bonceau, vous avez suivi le professeur Stéphane Nzita. Comment vous analysez sa proposition?
Merci, cher ami Alain. Avant de répondre à la proposition du professeur, je tiens tout d'abord à le saluer. Saluer professeur Stéphane Nzita, Dian Zita et professeur Bob Kabamba qui se trouve en Belgique en ce moment précis. Et aussi mes salutations vont aux nombreux auditeurs de la radio de la paix, Radio Capi. Oui, moi je vois que la démarche du professeur, c'est une démarche citoyenne. Le professeur veut aussi entendre la voix du citoyen, parce que les élections entrent dans le cadre du processus d'une participation citoyenne, qui est une exigence. Et si aujourd'hui le professeur a présenté ce que moi je qualifiais une étude d'une autre facture, qui rejoint l'autre étude qui était menée par la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, au mois de mai, à 4 mois, après la présentation de la feuille de route à la représentation nationale 30 janvier 2014, quand la CENI avait présenté sa feuille de route, et on se posait la question d'avoir un chronogramme, un calendrier, c'est-à-dire, vous savez, l'organisme de la réussite et l'échec du processus électoral dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est dû au déficit de planification. Ici, le professeur Stéphane nous donne un outil de planification qui est, le bon, je le dis bien, si bien c'est une proposition. Étant donné cette proposition doit tenir, je pense, selon l'étude, doit tenir effectivement compte de paramètres principaux. Le premier paramètre, c'est étude de toute étude, comme la alternative que la AIT avait présentée avec des tâches précises pour l'organisation des élections apaisées dans le délai constitutionnel, il était question de tenir compte des impératifs techniques, des impératifs financiers, des impératifs juridiques et des impératifs temporels. Et ici, nous avons vu le chronogramme que le professeur vient de présenter avec autant d'étapes. C'est très intéressant, une étude fouillée. Qui, moi aussi, je l'ai suggéré, je crois. Il doit aussi faire de sens cette étude au niveau de la représentation nationale et au niveau de toutes les parties prenantes au processus électoral, parce que nous nous rencontrons. C'est ça la démarche scientifique. Mais ici, nous avons épinglé une chose. Quand j'étais sur cette table de la radio de la paix, Radio Capi, il y a de cela une semaine, nous avons démontré que les exigences que la Commission électorale nationale indépendante Sénat avait présentées à l'Assemblée nationale, entre autres, l'achèvement du processus, la tenue complète du recensement administratif de la population dans les boches de la CENI, il a demandé ça pour que ça puisse se terminer le 30 septembre, donc le mois passé, le 30 septembre, et toutes les 6 opérations retenues par la CENI, tout devait se terminer au mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Aucune des exigences technique que la CENI avait demandé auprès de la représentation nationale pour lui doter des textes juridiques, pour lui doter de moyens financiers et pour arriver à présenter un calendrier global. Mais c'est là où le problème se pose. Mais ici, quel est l'enjeu principal? Parce qu'il ne suffit pas de présenter un calendrier, mais il faut tenir compte et ce calendrier est en jeu de moyens financiers. Ça c'est un. Et dans ce calendrier, y a-t-il déjà un package de textes juridiques. Ça, c'est deux. Et ce calendrier, je suis d'accord avec le professeur Stephen quand il parle du consensus électoral, parce que le premier consensus et notre consensus ont été brisés. Il y a eu problème de crise, de confiance de la population et dans le processus électoral et dans les animateurs du processus. Donc, il y a une question maintenant. Mais... Et parce que nous avons organisé les élections, je vais attirer là, M. Alain, il y a un grand problème. Les élections vont se tenir dans quel contexte? Parce que l'enjeu fondamental, il a présenté son calendrier en 2016. Est-ce que si nous allons commencer, par où allons-nous commencer? Par quelle échéance électorale nous commencer? Si le peu de temps, il n'y en a plus parce que le temps est déjà parti, les gens sont déjà à notre défaveur, le temps nous attendait, on n'a pas voulu négocier avec le temps, et maintenant, par où commencer pour ne pas retarder la tenue des élections présidentielles qui constitue une exigence constitutionnelle.
Alors, Jérôme Bonsoir, le professeur Nzita a proposé des dates, 1er novembre 2014 au 15 août 2015, préparation de la logistique, ainsi de suite. Ne risque-t-on pas de tomber dans le fétichisme des dates qu'on avait craint en 2011? On propose des dates et quand on arrive à l'échéance, on n'est pas prêt, ça devient un problème. Ça cause des tensions. Ne risque-t-on pas de tomber dans ce piège-là?
On va y tomber, parce que sinon, on ne reste pas. Si on doit voir de près, je crois que le professeur Stéphane, il est congolais, il connaît le mental du politique congolais, et si on ne voit pas, s'il n'y a pas la volonté politique, tout ce qu'on peut présenter comme calendrier. Monsieur le président de la CENI a présenté 6 exigences pour l'organisation apaisée dans le délai des élections. Aucune des exigences n'a été tenue. Jusque le timing, le dernier délai, c'était le 30 septembre. Recensement administratif, on relance le débat aujourd'hui. Qui devrait être organisé avant le 30 septembre passé. Et rien n'est fait. Et c'est pourquoi nous disons, ce qui compte ici, ce n'est pas le calendrier, ce qui compte, c'est la volonté politique. Est-ce que l'acteur politique congolais est-il disposé à donner des moyens financiers et matériels au pouvoir organisateur des élections pour respecter ce calendrier? C'est ce qui bloque même la CENI pour présenter son calendrier global exigé par les uns et les autres et surtout par la communauté internationale et l'opinion congolaise.
Professeur Bob Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne. Professeur Bob? Voilà, décidément, on a perdu le professeur Bob Kabamba. La réalisation va tenter de le retrouver. Professeur Stéphane Zita, vous avez suivi les préoccupations émises par Jérôme Bonsoir. Comment vous y répondez, notamment l'impératif financier? Est-ce que vous en avez tenu compte dans votre proposition? Les textes juridiques, est-ce que vous en avez tenu compte également?
Vous savez, ce que je ne suis pas venu faire, c'est d'être donneur de leçons. Et je ne pense pas que j'ai le monopole, je ne pense pas que j'ai toutes les réponses. Ce que j'ai dit, nous avons un problème réel. Et le seul moyen de le résoudre, c'est de nous asseoir ensemble, et c'est l'INO qui fait la force. Donc, oui, j'ai considéré les finances, mais le problème c'est d'abord, quel est le budget de la CENI? Et qui a fait l'audit de 2006, de 2011. Donc tout ça, mais je pense que l'argent n'est pas le problème. Le problème du Congo maintenant, c'est qu'il y a trop d'argent. Le Congo n'a jamais eu trop d'argent que maintenant. Et la question est que c'est l'impunité. Donc je pense que nous devons d'abord mettre ce que les anglophones appellent accountability et nous rendre compte. Il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi. Prenons un exemple. Vous savez qu'il est interdit par la Constitution pour un homme qui est ministre d'avoir un poste dans un parti politique. Donc, dès lors que quelqu'un va en tant que ministre et s'amène avec son drapeau de parti et le chef de son parti, lui devait déjà démissionner. Et vous savez qu'il est interdit pour un ministre de passer 3 mois sans présenter ses avoirs. S'il ne l'a pas fait, il a déjà entériné sa démission. Donc, il y a trop d'impunité. Je pense que maintenant, la question est de savoir qui a fait quoi, qui fait quoi, mais nous avons un problème sérieux. Comment allons-nous? Et je crois ce que le chef a dit à New York, hein, le Congo est debout. Mais alors, si le Congo est debout congolais, il y a 3 choses dans notre devise. La justice doit faire son travail. On ne doit plus permettre l'impunité. Et je pense que un des premiers points qu'on doit voir, tous ceux qui vont commencer encore à
troublés, qui bénéficient dans les eaux de troublés de nos élections, doivent être punis sévèrement. Et deuxièmement, la paix, cherchons la paix. On ne peut pas avoir la paix en mettant en n'y pas d'épaule. Nous devons nous retrouver vers le centre. Et troisièmement, le travail. Vous savez que les gens ne travaillent pas. Mais là, il y a des gens qui sont clochardisés. Eh bien, les gens ne réfléchissent pas. Les gens qui savent bien, qui peuvent même donner le vote à quelqu'un pour une bière. Imaginez-vous.
Alors, professeur, pour revenir à votre proposition, vous suggérez par exemple que le recensement se fasse en 3 mois. La RDC, c'est un pays aux dimensions continentales. On connaît toutes les difficultés qu'il y a à accéder dans certaines parties de ce pays. Pensez-vous que c'est possible en 3 mois?
Voilà, justement, c'était là, je m'attendais à cette question-là, parce que je l'avais mise là, justement, pour permettre que vous la posiez. Un, le Congo doit penser à la décentralisation. On ne peut pas diriger le Congo par Kinshasa. Donc, chaque groupement du Congo, il y en a 5230 qui ont un chef de groupement. Et les groupements ont un maximum, tout au plus la moyenne, c'est de 21 villages. Pourquoi Kinshasa doit compter les chefs de groupement. Et les élections des députés provinciaux et même députés nationaux se font au niveau du territoire. Pourquoi Kinshasa doit gérer ça? C'est là justement nous avons organisé une désorganisation qui fait que nous rendons les choses un peu plus complexes que ça devait être. Donc, cette démarche que je donne ici va permettre, une fois de plus, que nous puissions déjà commencer à frôler à la question de la décentralisation. Donc, je voudrais que Kinshasa ne puisse pas tout gérer. C'est comme ça que même quand on parle que quelqu'un qui a fait son argent dans une province, au lieu de retenir la source, on dit on trouve un verbe complexe, on va rétrocéder. Eh bien, combien est parti? Quand on va prendre l'argent qui vient d'une province, on amène à Kinshasa, ça va rentrer. Mais ça va sointer. Donc, je pense qu'au niveau des élections, les gens, là où ils vivent, ils peuvent savoir qui vit là, qui est où, et de là, on peut commencer. Donc, je propose donc qu'il y ait les moyens de commencer là où nous avons failli, au niveau du secteur, à l'état civil, au niveau de la commune, à l'état civil. Près de Kinshasa, ils avaient 400 quartiers. Nous avons toutes les rues. Nous connaissons qui sont les rues. Eh bien, je pense que c'est le moment aussi de planifier à 4 choses. Premièrement, de penser pour les planifications scolaires. Il y a combien d'enfants qui sont nés qui auront besoin des écoles, qui auront besoin de vaccination. Et puis, prévoir qui peut voter, c'est d'aller encore au niveau des zones de santé. Toute la République est divisée par les
c'est
zones de
santé. C'est un très grand travail, hein, professeur.
Le travail est grand, mais il n'est pas impossible.
Et donc, on revient à la volonté politique dont parlait Jean.
Les Congolais doivent prendre conscience. Le destin du Congo appartient aux Congolais. Les Congolais doivent savoir qu'ils ne doivent pas attendre qu'on leur donne un cadeau. Aucun pays au monde qui a reçu un cadeau qu'on appelle démocratie. Les peuples ont travaillé pour la démocratie.
Voilà, professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient du Nord Kivu.
Trésor Mumberezou, c'est Dokou Boutembo. Je crois que cette suggestion est loin d'atteindre les aspirations du peuple congolais qui a besoin des élections locales en vue de consolider la démocratie à la base. Parolement, c'est bon, mais nous voulons voir surtout les assemblées provinciales changer d'animateur.
Réaction, professeur.
Bon, il a raison, mais il a oublié que tout le monde vit de manière locale. Tout le monde vit dans une commune, tout le monde vit dans un secteur, tout le monde vit dans un village, tout le monde vit dans une rue. Eh bien, vous allez faire l'élection locale, mais il faut là aussi, au niveau local, arriver à savoir qui est là, qui est où et qui est qui pour qu'on vote. Vous savez, si nous allons permettre à croire que les choses sont aussi complexes que ça, nous allons nous perdre de vie. Je pense que chaque Congolais et tout Congolais habite dans un niveau local. Donc, sa question est vraie. Imaginez-vous que nous avons toute la République et tous les secteurs, toutes les communes sont dirigées par des gens qui sont des mêmes obédiences politiques. Là, il a raison. Mais la question est celle-ci. Allons-nous jeter l'enfant sale avec l'eau sale?
Voilà, Jérôme Bonso, vous avez suivi le professeur répondre à certaines de vos préoccupations. Êtes-vous satisfait?
Non, ici, il n'est pas question de se déclarer satisfait ou pas. Le professeur a présenté un travail scientifique, une étude, que là, nous savons qu'à toute étude, il faut tenir compte, je le répète, de la volonté politique en ce qui concerne l'organisation des élections, qui constitue un des enjeux majeurs, la survie de la nation et aussi des acteurs politiques. Si aujourd'hui, nous avons la proposition du professeur, qui est une contribution citoyenne que nous saluons nous tous, mais nous devons nous rendre compte. Est-ce que le professeur, cette proposition sera-t-elle entendue
par d'autres parties prenantes au processus électoral, c'est ça la question.
Mais vous avez déjà fait beaucoup de propositions, notamment au niveau de l'AETA. Avez-vous été entendu?
Nous disons que les propositions sont passées, mais c'est entré dans les oreilles des uns et des autres. Pour sortir de l'autre côté, c'est là où nous avons dit tout est caractérisé par la mauvaise volonté des acteurs politiques. Parce qu'ici, on devait dire clairement à l'opinion, est-ce que nous voulons les élections, oui ou non? Par quel bout de l'élection allons-nous commencer? Et dans quel temps, quel est le temps qui nous reste? Pour nous, au niveau de l'AETA, l'étude a montré que le temps n'est plus avec nous. Le temps est déjà parti. Et comment récupérer le temps? C'est comme le train, quand le train quitte la gare, et vous avez été distrait de ne pas être à temps à la gare pour se faire embarquer dans le train, c'est inutile, il faut attendre l'autre. Mais ici, il faut attendre, il y a des conséquences qui vont en tirer. Ici, à ce qui concerne les élections, techniquement, nous avons démontré au niveau de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État et au niveau de la ligne élite, nous avons démontré qu'il est impossible d'organiser à l'heure qu'il est les élections techniques en 2015, tout comme en 2016, parce qu'il y a un problème de temps. Le temps est déjà parti. Pour preuve, je répète ceci, la CENI avait demandé 320 millions de dollars pour faire son travail, mais on lui avait proposé à l'Assemblée nationale dans le budget 169 millions de dollars. Mais la CENI a toujours décaissé seulement 25 millions de dollars pour faire quoi? Quelle opération? Opération recensement administratif de la population n'a pas été effectuée et tout ce temps est perdu. Donc, 2014, nous avons déjà perdu le temps qui devait être affecté à l'organisation des tâches et des opérations que le professeur a énumérées ici et le moyen financier qui devait nous donner le gouvernement, qui devait nous donner la communauté internationale, qui conditionne son apport à l'élaboration d'un calendrier électoral global et à dégager un consensus électoral général, comme le professeur l'a si bien dit. Est-ce que nous allons nous en sortir? Nous disons que c'est déjà difficile.
Voilà. Alors, entre-temps, la réalisation me signale que nous avons beaucoup de mal à joindre le professeur Bob Kabamba. La ligne se coupe tout le temps et n'est pas bonne. Jérôme Bonso, vous parlez du temps qui est déjà parti. Dans la proposition du professeur Stéphane Zita, du 1er novembre 2014 au 15 août 2015, commence le processus. On est déjà, à ce jour, on est le 6 octobre 2014, le 1er novembre, c'est dans quelques semaines. Et donc, si le temps est parti, c'est que la proposition du prof n'est pas réaliste.
Non, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas réaliste, la proposition, scientifiquement, la proposition est réaliste. Mais sur le terrain, avec l'entendement, parce que ce n'est pas le professeur qui va financer le processus électoral, ça ne relève pas de la compétence du professeur, lui est scientifique. Ce n'est pas le professeur qui va dire, on va déclencher le processus de recensement administratif, d'où il y a autant de préalables, parce que quand on doit faire le recensement administratif, il y a des problèmes au niveau de groupement. Le professeur a parlé de 5230, professeur, nous avons les chiffres récents du ministère de l'Intérieur, avec la CENI, c'est 7350 groupements, plus 811 groupements fictifs qu'on a difficile à gérer, que ces 8000 groupements vont se muer en circonscription électorale où nous aurons difficile à gérer parce que nous étions incapables de gérer 169 circonscriptions électorales lors des élections précédentes de 2011. Et ici, nous n'avons pas encore eu une administration électorale outillée et nous n'avons pas, parce que la question du recensement, le professeur a dit, le timing 3 mois, est-ce que quel matériel, quelle nouvelle technologie allons-nous utiliser? Et sinon, est-ce que le logiciel dont le débat se focalise au niveau de la CENI pour qu'on puisse auditer le fichier électoral, est-ce qu'on a déjà les logiciels actualisés, adaptés pour l'organisation de ce genre d'élections? C'est tout un problème. Et tout ça, sans comme nous disons, il n'y a pas la volonté. Si le moyen, vous avez suivi, je le répète, le budget, le projet de budget qui vient d'être déposé sur la table du Parlement, c'est moins de 10 milliards. Mais les élections, nous allons dire, qu'est-ce qui est réservé pour les élections? Ça ne va pas être, ça va nous coûter cher, c'est
voilà.
Cher.
Nous allons prendre pour vous, Jérôme Bonso, cette question, cette réaction qui nous vient de Goma en Nord-Kivu.
Jimmy Faliala, depuis Goma, dans la province du Nord-Kivu. Je pense que le problème, ce n'est pas les schémas et moins encore les calendriers. Mais le problème, c'est plutôt la crise de confiance qu'il y a au sein de l'opposition par rapport à cette institution d'appui à la démocratie. Aussi longtemps que l'opposition n'aura pas confiance à la CENI ou encore à certaines composantes de cette institution, tout ce qu'elle peut faire s'avérera toujours moins crédible.
Voilà, Jimmy pense que le problème est ailleurs, ce n'est ni le calendrier, ni les finances, mais tout commence d'abord par le problème de confiance.
Oui, vous savez, cher ami Jimmy, le calendrier, c'est un outil de travail. Parce qu'on ne doit pas naviguer à vue sans cet outil de travail. C'est partant de cet outil de travail comment s'en sortir et vous donner des indications claires et précises, comme le professeur l'a si bien dit dans son travail. Mais le problème de confiance, c'est ça le nœud du problème. Parce que nous avons dit, pour crédibiliser le processus électoral, il faut reconstruire la confiance de la population dans le chef du pouvoir organisateur des élections qui est la CENI. Reconstruire la confiance de la population dans le procès électoral lui-même. Parce que, au regard de ce que nous avons connu des débâcles électorales de 2011, la grande majorité, la grande opinion nationale n'a plus confiance d'aller aux élections. Et à ce moment, ça sera grave. Parce que quand le peuple n'a plus confiance d'aller aux élections, le peuple risquerait de développer un autre comportement, de prendre le pouvoir, de l'exercer, le conquérir et le conserver par la violence. Ce qui est vraiment banni. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à nous mobiliser, à nous humilier, les uns et les autres, pour que nous puissions reconstruire la confiance de la population dans le processus électoral. C'est de là où je rejoins encore le professeur. Il y a nécessité d'un consensus politique, il y a nécessité d'un consensus électoral, et c'est de là où on peut voir comment on peut rectifier le tir.
Merci. Professeur, qu'est-ce que vous répondez à Jimmy qui pense, lui, que le problème est ailleurs, ce n'est pas le calendrier ni le chronogramme, mais c'est plutôt un problème de confiance entre institutions.
Je pense que Jimmy représente la majorité des Congolais qui sont fatigués de la démagogie, qui sont fatigués de l'impunité. Mais vous savez, les parties prenantes, les mots qu'on dit parties prenantes, veut dire quoi? Vous avez deux parties dans les parties prenantes ici. Premièrement, vous avez les stakeholders, ou bien ici, c'est tous les gens qui sont des actionnaires, ceux qui bénéficient maintenant. C'est qui sont en train de jouir de ce qui est là. Mais encore, il y a les stakeholders, tous ceux qui ont intérêt. Donc ici, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je pense qu'il est important que nous ne commettions pas l'erreur de croire qu'il n'y a que de mauvaises intentions de notre camp. Il n'y a que des bonnes dans notre camp. Moi, je ne pense pas que la majorité ou l'opposition, il y a un groupe où il y a des gens qui sont tellement mauvais. Je pense que c'est question de la complexité du problème. Jimmy a raison. Il y a un déficit de confiance. Alors, commençons par le débit. C'est pourquoi même le sens de leadership transformationnel, qui fait quoi? Qui crée la confiance entre les dirigés et les dirigés, entre les membres eux-mêmes et les membres avec les dirigeants. C'est ça que nous cherchons. C'est ce déficit de confiance qui nous a poussé, nous, en tant que scientifiques, de penser à un leadership transformationnel. Ici, il nous faut une idée fédératrice. Laquelle? Le Congo veut devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Veut dire quoi? Que l'enfant qui est entré aujourd'hui en deuxième année primaire aura une maîtrise en 2030. Que l'enfant qui a commencé l'université aujourd'hui sera déjà docteur avec l'expérience de 4 ans minimum. Donc, qu'allez-vous faire quand le Congo va se trouver avec les autres nations? Alors, si maintenant nous continuons à tourner en rond, c'est ça qui nous... Nous pensons que maintenant, il est temps que le Congo arrive à faire une chose pour la première fois, c'est de compléter ce qu'il a commencé. Pourquoi? Parce que tous les problèmes du Congo, tous les problèmes politiques du Congo ont commencé par la violation de la Constitution. Et ceci dès la naissance de la jeune démocratie congolaise. Il est temps que nous disions, tournons la page, allons vers les respects des textes.
Alors, deux auditeurs pour vous, professeur Stéphane Zita. Jean-Paul Ompendwa, qui nous écrit de Lubumbashi Katanga, dit « Cette proposition ne devrait pas être publiée dans les médias. L'auteur aurait dû d'abord échanger avec les institutions appropriées, sinon... tous les citoyens du pays feront aussi leurs propositions et j'ajoute, on n'en sortira pas. » Emmanuel Niwe de Bukavu, au Sud-Kivu, lui dit « L'idée est bonne, mais cela n'est pas les vrais problèmes en RDC. Ce calendrier tel que proposé par le professeur Nzita ne peut en rien décrisper la situation politique du pays, car le vrai problème, c'est au niveau de la présidentielle, des élections directes pour la députation provinciale, professeur. »
Il a raison. Et vous savez que moi, je suis un chrétien d'abord. Ce que je propose aujourd'hui a été proposé 3 mois passés.
tout le monde de la communauté internationale a reçu une lettre et cette proposition. La présidence, la CENI. Donc, avant que je ne vienne
pas. Le Parlement.
Ah oui, le Parlement. Tout le monde. Le Parlement, j'ai envoyé quand même au chef. Mais je parle de tout le monde qui devait entendre a entendu. Donc, ce que j'ai fait d'abord.
Et quelle réponse vous avez reçue?
Bon, écoutez, je ne vais pas aller au catalogue des réponses, mais je pense que jusqu'à là, si je suis ici aujourd'hui, ça veut dire qu'écoutez, je crois à ce que j'avais dit, et je crois que nous sommes tombés là où nous sommes tombés, et je vous rappelle que j'avais fait un discours en 1995, le 19 novembre, à Washington Press Club, où j'avais dit que si nous n'allons pas faire attention, on allait voir ce qu'on a eu. Eh bien, maintenant, je reçois la presse presque du monde qui me rappelle de ce discours-là. Donc, écoutez, je suis un observateur du Congo depuis 1990 et je ne parle pas d'une manière hasardeuse. Je parle avec beaucoup de réflexion. Donc, avant, et il a raison, mon frère de Lubumbashi, je ne viendrai pas ici sans avoir... Non. Par courtoisie, par déontologie, par éthique, par moralité, j'ai commencé par les débuts et s'il entend aujourd'hui, c'est parce que je n'étais pas entendu avant, parce que je pense que la surdité de la logique est une partie de notre équation à décortiquer en RDC.
Voilà, Jérôme Bonson, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient du Kassai occidental.
Prince Kankonde, depuis la ville de Kananga au Kassai occidental, le professeur a raison, car la question des élections est à prendre avec beaucoup de sérieux et de diligence aussi, dans la mesure où le devenir même de notre pays en dépend. L'essentiel n'est pas d'organiser les élections, mais plutôt de mieux les organiser. Pour ce faire, il faudrait en amont réunir tous les éléments nécessaires pourvu que l'on puisse obtenir cette fois-ci un résultat convaincant. De peur que l'on tourne toujours en rond en faisant table rase comme ce fut le cas passé en 2011 où la CENI elle-même était incapable de nous produire un effectif exact de votants et leur bureau affilié.
Réaction, Jérôme Bonsoir.
Oui, je salue l'intervention de mon compatriote Kankonde. Et Kankonde, c'est comme quelqu'un qui a été mordu par un serpent, qui a peur de voir tout ce qui est reptile. Parce que Kankonde se souvient encore de mauvais souvenirs des élections de 2011. Or, quand on aurait les élections, comme l'a dit si bien dit, nous avons dit les élections de 2006, ça boitait, mais on avait pris l'engagement d'améliorer en 2011. Arrivé en 2011, c'était le chaos électoral. Pourquoi, comment tout être humain qui est voué à améliorer son vécu, son comportement, nous sommes encore retombés si bas. Mais avec ces cafouillages, avec tout ce que nous connaissons comme retard, et tout, nous avons peur que les élections de 2016 ne puissent pas avoir lieu. Et là, quand on parle 2016, on voit maintenant objectif élection présidentielle, qui est une exigence constitutionnelle. Comment nous allons nous investir? Parce que jusqu'à l'heure qu'il est, le recensement administratif qui est exigé par la CENI, ça n'a pas eu lieu le 30 septembre. On a demandé les cartographies de regroupement qui sont plus de 8000 qui vont faire office de circonscription électorale. Le ministre de l'Intérieur n'a pas pris ce décret. On a demandé à ce qu'il puisse y avoir un déploiement et la formation de juges en administration électorale. Tout ça, ce sont des préalables qui n'ont pas été respectés. Et si on va encore y aller en 2016, enfin... Oh, le peuple, l'opinion, la population congolaise, où va-t-elle encore fonder son espoir? C'est pourquoi nous disons, même la contribution de professeur Stéphane, c'est pour dire nous devons nous engager pour améliorer l'organisation des élections de 2016. Mais au regard de ces préalables, au regard de nos respects de ces préalables, nous pensons, nous avons peur de croire que nous risquons encore de faire le jeu, d'être taxé d'un don de la face.
Alors, Jérôme Bonso, le temps est passé, on est très en retard, il y a certains préalables qui n'ont pas été remplis, vous le dites. Professeur Nzita propose notamment un consensus national pour débattre de l'avenir de la RDC. À ce moment-là, quelles sont les matières principales, notamment en ce qui concerne les élections? Doit-on refaire un autre calendrier? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Non, ici, qui va faire l'autre calendrier? Le pouvoir organisateur, la CENI, a donné des propositions qui n'ont pas été prises en compte par la représentation nationale, par d'autres partenaires, par le gouvernement, qui n'a pas disponibilisé le moyen matériel et financier. Ici, on doit s'arrêter. Il faut avoir le courage de le dire. On s'arrête, on se regarde dans les yeux.
parce que nous devons trouver une solution. Et cette solution partirait du dialogue, parce que les alliés disent c'est du dialogue, naîtra le consensus, c'est du consensus. On aboutira à l'organisation des élections apaisées et dont les résultats seront acceptés par les uns et les autres.
Donc, ce dialogue... Et donc à ce moment-là, il faut refaire un calendrier, il faut voir sa faisabilité, disponibiliser les moyens, c'est-à-dire reprendre le processus à zéro.
Obligatoirement, parce que le calendrier qu'on va avoir, ça ne sera plus le calendrier du pouvoir organisateur des élections seulement, ni du gouvernement, ni de la majorité, ni de l'opposition. Ça sera un calendrier consensuel qui tiendra compte de l'étude produite par le professeur Stephen Zita, qui tiendra compte de l'analyse technique du procès électoral menée par Agir pour des élections transparentes et apaisées. Et de là, tout le monde va dire comment recadrer, parce que nous sommes déjà en retard. Et quand est-ce qu'on va programmer cela, qui c'est lui qui va le programmer de façon unilatérale, on ne va pas y arriver, on n'y arrivera pas au résultat. Mais si on va programmer de façon consensuelle pour dire nous devons préserver l'unité et la paix de notre pays, nous devons nous dépasser, partant de cette rencontre qui est prévue par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans son article 14.b qui invite, qui recourt le bon office de la communauté internationale pour que le Congo se retrouve afin de trouver une solution à la réconciliation nationale, à la démocratisation du pays et à l'organisation des élections provinciales et locales. À ce moment-là, on pourrait relancer la machine, mais nous savons que ça sera déjà tard, étant donné que 2015 et 2016, au regard de tout ce qui est du facteur temps, nous ne serons pas en mesure d'organiser les élections apaisées, à moins que ce soit les élections politiques et non techniques.
Réaction, professeur, on ne pourra pas organiser des élections apaisées au vu de tout ce qui est en train de se passer, à moins que ce ne soit des élections politiques, comme dit Jérôme Bonsoir.
Je pense que mon frère Bonsoir a raison, mais nous avons considéré tous les obstacles. Il n'a cité que 7 obstacles. Nous en avons compté 71. Donc, nous sommes partis des obstacles réels. Si on a fixé au 1er novembre, c'est parce que nous connaissions ce qui est chez nous. Nous connaissons le Congo, nous connaissons les acteurs, nous connaissons ce qu'ils vont faire. Je voudrais que nous ne tombions pas dans les pièges de croire que le Congo n'a que des mauvaises personnes. Je pense que le problème aujourd'hui que nous avons n'est pas problème de mauvaise foi, mais problème de pédagogie politique et problème de limite. Alors, que chacun nous mette un peu de l'eau dans son vin et dans son verre et comprendre que nous avons des limites. La CENI a montré des limites réelles. Et tout le monde a montré des insuffisances. Au lieu de chercher qui blâmer, je pense que attaquons le problème là où il est. Nous devons faire ce que le chef de l'État demande, de respecter la Constitution, lui s'y est engagé, et les Congolais debout, et pourquoi les faire asseoir encore? Donc je pense que nous avons une démarche citoyenne ici, et nous savons que nous pouvons, quand on veut, on peut, et nous voulons, nous allons arriver. Les Congolais travaillent pour la justice, les Congolais travaillent pour la paix, et les Congolais travaillent pour le travail, parce que la majorité des Congolais sont au chômage.
Alors, professeur, un consensus national, vous souhaitez encore ce genre de forum pour débattre de l'avenir de la RDC. Il y avait récemment les concertations nationales. Qu'est-ce que vous en faites?
Bon, écoutez, moi je voudrais que nous disions ceci. Nous devons mettre fin à ce genre de choses théâtrales et de folklore. Ça n'amène nulle part. Nous pensons que chaque fois qu'on pense qu'on doit se retrouver, c'est pour se partager, pour se ministre réel. Et vous avez vu, quand on pensait devenir ministre, combien on commençait à porter des cravates rouges. Ça, ce sont des choses infantiles qu'on doit vraiment cesser. La question aujourd'hui n'est pas quelle conférence, quelle réunion, mais comment nous allons arriver à faire asseoir notre jeune démocratie, puisque le Congo est debout.
Alors, en guise de conclusion, professeur, quelle chance vous donnez à votre proposition?
Je suis chrétien et je crois profondément en Dieu. Et j'en appelle aux chrétiens qui m'écoutent et aux croyants qui m'écoutent que le Congo, notre pays, c'est un pays que Dieu a tout donné. Prions pour ce pays et travaillons Dieu pour ce pays. Merci. Car l'avenir est grand et c'est qu'on gagne de grandeur.
Jérôme Bonsoir, comment vous entrevoyez l'avenir de la proposition du professeur Nzita?
Nous devons nous investir à réconcilier les consensus électoral, ce consensus à travers un dialogue politique prévu par la résolution 2098 pour que nous puissions arriver à l'organisation, tout d'abord produire un calendrier électoral global et consensuel, dont les dates pour l'organisation de l'élection présidentielle, qui est un enjeu constitutionnel, puisse être clairement détaillé et présenté à l'opinion, et qu'on arrive à l'organisation des élections apaisées dans notre pays pour épargner des pertes de vies humaines.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dommage que nous n'ayons pas pu joindre le professeur Bob Kabamba. Merci à la rédaction de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Berry Franklin, Luchaka, sous la supervision de Julien Nyamouini, à la technique Guy Manzangou et Patrick Tiasongwa. Présentation et coordination, Alain Rong-Mouchinch. Au revoir.